Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à regarder en Actes chapitre 1 ce matin, qui est le récit en fait de l'ascension de Jésus et ses dernières paroles. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Prions notre Père. Nous te remettons ces instants afin qu'ils soient bénéfiques parce que bénis de ta part. C'est ta parole qui est une source de bénédiction dans nos vies. Alors Seigneur, je te prie que tu nous caches et que toi tu sois vu et glorifié ce matin, car c'est à toi seul qu'appartient la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. On retiendra ce matin plus particulièrement le verset 8, car c'est un des versets clés de ce passage. Toutefois, pour nous placer dans le contexte ici, on voit dans les 7 premiers versets, donc, un récit, le récit de Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, qui avait aussi écrit dans son premier livre l'Évangile de Luc. Et donc, Jésus, il est écrit qu'il a parlé, Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il a commencé de faire dès le commencement, mais l'œuvre de Jésus est inachevée. Bien sûr, l'œuvre de Jésus sur la terre, sa crucifixion, sa rédemption est parfaite et parfaitement achevée. Et nous ne pouvons rien ajouter, qui que ce soit d'entre nous, à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, à la croix, pour le salut de l'homme, pour le salut de quiconque croit. Mais le Seigneur Jésus, qui sur la terre, dépendant de Dieu le Père, a accompli ses œuvres, maintenant, envoie son Saint-Esprit pour que les apôtres en premier et les disciples en second et tous les croyants du monde entier puissent achever l'œuvre commencée de Jésus sur la terre. Une œuvre de sacerdoce, une œuvre d'évangélisation, une œuvre divine du haut des cieux parce que Christ ressuscité a été enlevé et aujourd'hui, comme il est écrit ici, dans l'expression de Luc, il est apparu vivant. La crucifixion sans la résurrection, il n'y aurait plus la puissance du ressuscité pour accomplir l'œuvre inachevée sur la terre. Même si l'œuvre de rédemption est imparfaite, l'œuvre qu'il veut accomplir et qu'il veut continuer d'accomplir, il l'accomplit au travers de ses enfants par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous sommes appelés quelque part à continuer l'œuvre que Jésus-Christ a commencée sur la terre, à achever l'œuvre commencée. Et bien sûr, c'est une œuvre divine qui ne peut pas se faire dans nos forces. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus-Christ. Et ici, il est question d'ordre qu'il a donné par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Cette portion des Écritures ici, les premiers versets et le premier chapitre des Actes des Apôtres, est une transition entre l'enseignement de Jésus et ce que les apôtres maintenant vont transmettre au monde il y a l'Église qui va commencer en Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le jour de la réception du Saint-Esprit. Les apôtres avaient été choisis par Jésus-Christ lui-même, et le Seigneur, il faut, parfois on oublie cela, le Seigneur a passé essentiellement du temps sur la terre avec ses 12 apôtres. On sait qu'un l'a trahi, Judas. Il a enseigné ses apôtres, il a investi son temps, autant par la parole prêchée, par l'enseignement des Écritures, que par le vécu parfait, évidemment, étant le Fils de Dieu, par la puissance de ses miracles, par la puissance même de sa résurrection. Il a enseigné aux apôtres Dieu lui-même. Et en fait, le but de tout enseignement, quel qu'il soit, ça devrait de nous amener à la connaissance de Dieu. Ce que veut Dieu, c'est qu'on le connaisse, lui. Quelqu'un a écrit un livre, « Mieux le connaître pour mieux le servir ». On ne peut pas servir Dieu sans connaître Dieu. Et ce que Dieu demande, ce sont des enfants de Dieu qu'il aime et qu'il adore en esprit, en vérité, et qui connaissent Dieu lui-même. C'est triste de voir parfois des gens qui se disent croyants, qui se disent religieux, qui pratiquent une religion, mais sans en connaître la source. Quelle tristesse, quelle mort, je pourrais dire. Mais nous qui sommes vivants, parce qu'il est vivant, nous avons un message à transmettre, le message qui nous a été laissé par l'évangile de Luc, le message que Jésus-Christ a laissé aux apôtres qui a été transmis. Et en acte 2, on parle qui, des croyants, tous ces milliers de gens convertis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ce que Jésus a transmis précieusement aux apôtres, les apôtres l'ont communiqué aux disciples, qui l'ont communiqué dans le monde pour le salut des hommes et qui ont formé à leur tour des disciples. Et ainsi, ils ont accompli ce que Jésus leur avait dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur prescrivant, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. » Ça fait réfléchir cela. Jésus, sur la terre, a pris le temps de passer du temps avec 12 hommes, dont un l'a trahi, pour réaliser ses futurs plans dont le salut du monde dépendait. Tout ça a été possible à cause du fait qu'il avait fait une promesse, la promesse de la venue du Saint-Esprit, lui devant partir. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure en Luc, hein, que Pierrick nous a lu, et ce qu'on relit ici, c'est que Jésus a été enlevé. Et il fallait qu'il soit enlevé pour donner le Saint-Esprit. Il nous est même dit quelque chose d'intéressant, c'est le seul endroit où c'est écrit dans les Écritures. On se demande parfois, mais l'ascension, ça a lieu quand? Et puis Pentecôte, ça a lieu quand? Eh bien ici, on a la réponse, c'est 40 jours après la résurrection, et Pentecôte, 50 jours après la résurrection, dont les disciples, on a lu le passage tout à l'heure en Luc, ils ont adoré Dieu, Jésus, après qu'ils soient enlevés, ils ont glorifié Dieu dans le temple, ils ont attendu 10 jours dans la chambre haute pour la venue du Saint-Esprit, parce que basé sur la promesse de Dieu, nous allons y venir dans un instant. Mais les disciples, après avoir reçu tout cet enseignement, alors Jésus vivant leur a parlé, au verset 3, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand on aime le Seigneur, on a envie de se blottir contre lui, puis d'écouter ce qu'il a à nous dire. L'enseignement de Jésus est passionnant, il est tellement différent des hommes. J'allais dire des promesses des politiciens, des promesses des hommes, de l'enseignement même qu'on a dans ce monde. C'est l'enseignement de Jésus, c'est éternel, parce qu'il nous parle d'une personne, il nous parle de Dieu le Père, il nous parle de Dieu le Fils, il nous parle de Dieu le Saint-Esprit. Et les disciples écoutaient attentivement, ils avaient un intérêt, les choses du royaume, les choses de Dieu. J'espère que dans nos cœurs, nous sommes plus attentifs aux choses du royaume, aux choses spirituelles, qu'aux choses de cette terre. Bien sûr, on vit sur cette terre, mais l'essentiel, c'est de vivre pour les choses spirituelles qui vont demeurer, qui sont éternelles. Nous n'avons qu'une vie à vivre sur la terre. Et Jésus a fait de nous des enfants de Dieu, des êtres spirituels. Nous sommes devenus des êtres qui sont essentiellement spirituels, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous vivons par le Saint-Esprit et nous nous intéressons au royaume de Dieu. Et nous avons aussi des questions, comme les disciples. Alors, Jésus leur dit, attendez à Jérusalem, et ils ont obéi. Une première façon d'honorer Dieu, c'est de lui obéir dans les choses qu'il nous demande. Alors Jésus a dit, vous resterez à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Quelle dépendance de Jésus envers Dieu le Père. Jésus, c'est fascinant de lire dans l'évangile de Jean notamment, comme Jésus dépendait de Dieu le Père en toutes choses. Il ne se met jamais en valeur. C'est le Saint-Esprit qui met en valeur Jésus. Mais Jésus met en valeur son attachement, son obéissance, son dépendance totale envers Dieu le Père. Je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de Dieu le Père. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Alors, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On reviendra sur ce thème. Mais les apôtres se sont dit, ah oui, est-ce que ce n'est pas le moment où Jésus va venir établir le royaume sur terre, en Israël? Ce sont des Juifs. Et leur espérance, c'est d'être délivrés de la botte romaine et d'élire, mais le roi des rois. Est-ce que ce n'est pas normal de vouloir avoir le roi des rois et le seigneur des seigneurs comme celui qui règne sur Israël? Ils sont préoccupés de cela. Ils attendent le millénium, quelque part. Mais Jésus leur dit, voilà, vous attendez mon retour, vous attendez le royaume de Dieu sur la terre, mais c'est une fausse priorité. Avant d'espérer mon retour, ce qui est pas mal du tout, vous avez une mission à accomplir. Et cette mission, le cadre de cette mission, c'est le monde. Nous pouvons espérer le retour du Seigneur, mais la Bible dit que notre priorité, c'est la mission que Dieu nous a confiée. Cette mission, c'est d'aller parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et les actes des apôtres reflètent, et ce qu'a écrit Luc, chapitre après chapitre, on peut regrouper certains chapitres, et voir que c'est exactement le plan de Jésus-Christ dans ses paroles qui s'est réalisé au travers des actes des apôtres. Les actes des apôtres, on devrait l'appeler les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela par les premiers disciples qui ont été prêts à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah, nous pouvons attendre le royaume du Seigneur et son règne sur la terre, et c'est une très belle chose, et nous avons besoin de cette espérance. Personnellement, je peux témoigner, par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui le fait en moi, que j'ai hâte que le Seigneur revienne, et c'est ma plus grande espérance. Il n'y a qu'une chose que j'espère dans la vie, essentiellement, c'est le retour du Seigneur. Mais je ne peux pas échapper à mon devoir qui est écrit ici. Vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que nous faisons de cette mission? Est-ce que nous sommes vraiment les témoins de Jésus-Christ, ces témoins? Il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez discuter avec un témoin de Jéhovah, il va frapper à votre porte, vous allez le recevoir après des heures de discussion, vous n'aurez aucune assurance d'aller au ciel, parce que même nous ne sommes pas sûrs. Et il falsifie les Écritures. Il y a des vrais témoins, il y a des faux témoins. Et Jésus nous fait l'honneur d'être ses témoins. Est-ce que nous sommes réellement ses témoins? Est-ce que vous êtes les témoins de Jésus-Christ dans ce temps qu'il nous accorde sur cette terre? Est-ce que vous jouez, je ne sais pas le rôle, mais est-ce que vous faites cette fonction? Est-ce que vous accomplissez cette mission que Jésus nous a laissée et qui est une des raisons de son ascension? Vous recevrez le Saint-Esprit et en conséquence, vous serez mes témoins. Dans les Écritures saintes, il y a plusieurs passages de la promesse de la venue du Saint-Esprit, tel que Jésus-Christ l'a donné. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Peut-être faire une parenthèse de suite, ça me vient à l'esprit. Nous pensons que les apôtres, les disciples, avaient le Saint-Esprit avant la venue du Saint-Esprit. Ils avaient une portion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, avait un certain ministère sur les croyants et dans les croyants. Mais dans cette période de transition, Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux. Ils étaient convertis. Ils n'ont pas reçu, il faut comprendre cela, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit au moment de la conversion dans le même sens que maintenant il est écrit, puisqu'il est écrit « vous recevrez le Saint-Esprit ». C'est parce que Jésus voulait sceller du Saint-Esprit les croyants, et cette venue du Saint-Esprit allait former l'Église. C'est le jour de la Pentecôte, et lisez Actes chapitre 2 pour vous réjouir de cette puissance de la venue du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Vous avez déjà eu un ami, un cher ami, en qui vous avez placé votre confiance, dans le sens que vous avez une relation vraiment fraternelle ou amicale, ou... puis vous avez un ami, puis cet ami s'en va. Ah, oh, c'est triste d'avoir des amis qui s'en vont. Des êtres chers. Il manque quelque chose. Eh bien, Jésus a dit, voilà, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur. Celui qui va se tenir à côté de vous, un paraclet, à côté d'eux, qui va plaider pour vous, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et au verset 26 de Jean 14, est écrit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. » Donc, en mon nom, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit là-haut, le Seigneur, en son nom, pour dire, voilà, ça y est, tu peux envoyer le Saint-Esprit, Père, parce que tu as accepté tout ce que j'ai accompli sur la terre avec la croix. « Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà. Ils ont été enseignés, les disciples, les apôtres, par Jésus, mais il s'en va. Oh, le leader est parti. Qu'allons-nous devenir? Ah non, je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous donner un consolateur, quelqu'un qui va être près de vous. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus rendait témoignage de Dieu le Père sur la terre. Et maintenant, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus que oui, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait et ce qu'il est aujourd'hui, c'est réel. Et ça nous est communiqué par le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre les choses de Jésus et de Dieu le Père si on n'a pas le Saint-Esprit. On est comme voilé, on a comme des écailles sur les yeux. Et c'est quand le Saint-Esprit vient en nous et habite en nous et nous scelle que les écailles tombent et qu'on voit la lumière de Dieu le Père. Et la beauté de Jésus-Christ, son amour infini. Alors, la Bible dit ceci, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Quand a-t-il eu lieu ce baptême du Saint-Esprit? Nous devons faire une parenthèse là-dessus. Dans le sens ici du verbe grec et du temps grec, il est question d'un temps qui montre une action passée avec les effets qui sont continus. Autrement dit, c'est un événement ponctuel, mais qui a des conséquences dans l'avenir. Mais c'est un événement une fois pour toutes. Lorsque vous entendez des gens dire « Ah, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit ?» C'est une erreur de théologie. Excusez-moi, mais c'est une hérésie. Le croyant... parce que né de nouveau, a reçu le Saint-Esprit. Le croyant n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il l'a été. Il l'a été une fois pour toutes, il est écrit ici, pour former un seul corps. On est plongé dans le corps quand on reçoit le Saint-Esprit, Actes chapitre 2, c'est le début de l'Église, on est placé dans le corps de Christ, donc Christ est la tête. Mais c'est une fois pour toutes, on n'est pas placé, puis retiré, puis replacé, puis retiré. On est baptisé une fois pour toutes dans le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être rebaptisé du Saint-Esprit. Par contre, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, laissez-vous remplir continuellement du Saint-Esprit. Soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit. Soyez loin du Saint-Esprit. Par contre, la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui confondent l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu, l'obéissance aux Écritures qui amène justement à cette plénitude du Saint-Esprit avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est dommage parce que dans le sens ici théologique et biblique, le baptême c'est une fois pour toutes. Mais gloire à Dieu qu'il existe le baptême. Parce que sans baptême du Saint-Esprit, je ne suis pas sauvé. Sans être né de nouveau, je ne suis pas sauvé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la réception du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Nous avons tous, c'est bien écrit tous, tous les croyants ont été baptisés. Ce n'est pas certains qui le sont et d'autres qui le seront plus tard. Il y a vraiment une confusion de compréhension dans ce terme-là. Nous avons tous en effet été baptisés dans ce passé. Le jour où vous êtes convertis, c'est comme si Dieu vous a placé le même jour à la Pentecôte. Vous êtes entré dans le corps de Christ. Vous avez fait la même expérience qu'Actes chapitre 2. Il n'y a peut-être pas les mêmes signes qu'Actes chapitre 2, mais c'est la même chose. Vous avez été placé dans le corps et vous avez été baptisé pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été approuvés d'un seul esprit. Il fallait dire cela. Mais non, par exemple, en Actes chapitre 4, ça c'est quelque chose... Moi, vous avez parfois des versets qui vous... Vous savez, qui vous font réfléchir, puis qui, quelque part, vous chicotent dans le sens que c'est des vérités qui sont là tellement fortes. Dans l'expérience, en tout cas, des disciples et des apôtres, Actes chapitre 4, après avoir été persécutés pour placer dans le contexte. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Je pense que Dieu voudrait que tous ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Et je crois qu'une église, nos vies sont transformées quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Une église est transformée lorsqu'elle est remplie de croyants remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, la puissance du Saint-Esprit est donnée à ceux qui font et accomplissent la mission de Dieu. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Quel témoignage! Alors nous revenons, si vous voulez bien, au passage ici et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, nous en avons déjà parlé, et vous serez mes témoins. Maintenant, cette puissance dans le grec, vous avez certainement entendu parler de ça, le mot grec c'est dynamis, qui a donné le mot dynamite. La dynamite, ça explose quand la mèche est allumée. Et parfois, reconnaissant que nous avons cette dynamite, un jour j'ai entendu un prédicateur, et j'étais jeune croyant, dire « Vous savez-vous que vous avez le même Saint-Esprit, le même Esprit qui a créé les cieux et la terre ? Vous avez la puissance de Dieu en vous, si vous êtes croyant. » Oh, ça a été quelque chose de difficile un peu à comprendre. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu, habite en moi une fois que je suis sauvé. Ce même Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu. Mais est-ce qu'on peut limiter Dieu dans nos vies? Dieu est-il limité? Donc, c'est moi qui le limite parce que Dieu est infini. Ce même Dieu, par sa puissance, qui a créé les cieux et la terre, par ce même esprit habite en moi. Waouh! Ça nous humilie, ça, frères et sœurs. Et ça nous écrase devant Dieu. Et on se met à plat ventre pour l'adorer parce que nous qui sommes rien... Eh bien, il a fait de nous des terroristes évangéliques avec une dynamite, mais il faut allumer la mèche. C'est ça notre problème. Reconnaissons que nous en parlons, parfois nous le vivons, mais est-ce que vraiment nous sommes en pleine explosion de vie de l'esprit dans nos vies? Humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin d'être élevés au temps convenable, nous disent les Écritures. Alors il est écrit « Vous serez mes témoins ». Ce « vous », ben, c'est chacun de nous. On pense à l'autre, tiens, il est appelé, lui. Il est appelé à témoigner. Moi, dans mon petit coin, là, j'attends que Dieu fasse quelque chose. Non, c'est pas quelques-uns. Qui que nous soyons, le jour où on a accepté le Seigneur, on devient un témoin de Dieu. C'est pas n'importe qui. Un ambassadeur dans un pays qui représente un pays, c'est quand même monsieur l'ambassadeur. On l'honore, il a... un consulat, une ambassade avec du personnel, il est accepté par les autorités du pays qui l'ont accueilli, et quand il s'exprime au nom du pays, on écoute ce qu'il dit. Eh bien, nous, la Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Il n'y en a pas d'autre que nous. Nous sommes les vrais ambassadeurs de Jésus sur la terre. Il ne peut pas se reposer sur d'autres. Nous, il ne se repose que sur ses enfants. Il dit, vous serez mes témoins. Alors, ce n'est pas l'autre. C'est moi. Et c'est une grâce. Je dois l'accepter par humilité que Dieu veut que je sois un témoin. Oh, je suis imparfait. Je ne suis peut-être pas capable d'exprimer toutes les Écritures ou tout le plan merveilleux de Dieu comme je voudrais le faire. Je me sens limité, maladroit dans mon approche pour expliquer l'Évangile aux uns et aux autres. Oui, mais Dieu le sait. et je peux me qualifier, plus je vais l'exercer, ce ministère, plus peut-être, plus je vais, pas peut-être, plus je vais me qualifier, prendre l'assurance et la dépendance avec Dieu le Père, pour que le Saint-Esprit en moi, en Jésus-Christ, accomplisse cette œuvre. Je vous fais un pari ce matin, tiens, ça me vient à l'esprit. Demandez, en vous levant le matin, une occasion de témoigner du Seigneur dans la journée. Peut-être que vous pouvez même dire une, deux, trois fois, je ne sais pas. Vous allez être surpris. C'est incroyable les occasions que Dieu donne à ses enfants. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce vous, c'est encore vous, vous et moi. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il aurait pu prêcher l'évangile par des anges. Il aurait pu accomplir comme il le voulait, ses plans. Il a dit non, c'est vous. C'est vous. On a pris la table du Seigneur ce matin. On s'est souvenu de ce que Jésus a fait à la croix. Et par amour de ce qu'il a fait pour nous, oui, on a envie de parler de lui. C'est quelque chose qui est dans nos vies et qui est très fort. Vous serez mes témoins, et c'est ce vous. Il y a l'apôtre Jean qui dit ceci. C'est un des passages que je chéris dans les Écritures, comme d'autres passages, comme chacun de nous. On a des choses qui nous marquent, je pense, dans nos lectures. Et Jean disait ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père qui nous a été manifestée. Jean dit, moi j'ai vu, j'ai touché, j'ai entendu. Oh Jean, en plus, tu t'es bercé, c'est pas dit comme ça, sur le sein de Jésus. Et moi alors, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, et j'ai pas pu toucher. J'étais pas là quand Jésus était là. Et le Seigneur un jour m'a dit, mais Michel, tu peux m'entendre de tes oreilles spirituelles. Tu peux me toucher de tes mains spirituelles. Tu peux me voir de tes yeux spirituels. Passe du temps avec moi. Vous comprenez l'illustration ? C'est dans la communion en esprit avec Dieu, même si nous n'étions pas là, nous aurions aimé vivre avec Jésus. Vous auriez aimé vivre avec Jésus ? Ah, vous avez des questions ? Moi, j'en ai plein. Des combats aussi. Seigneur, je peux te dire un mot là ? Écoute, tu vois, tu es occupé, mais là, j'ai des questions importantes. Est-ce que je peux te parler ? Mais on peut lui parler aujourd'hui. On peut aller vers lui comme s'il est là. Vous croyez qu'il est présent ici, dans cette pièce ? Il est présent. Ils l'ont mis présent. Dans votre chambre, il est présent. Dans votre foyer, il est présent. Vous pouvez toujours vous adresser à lui. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez l'entendre. Parce qu'il est omniprésent. Et quand on est dans sa présence, on peut dire quelque chose aux autres après. C'est ça être témoin. C'est d'être témoin de ce que Jésus fait dans nos vies, de ce qu'il est. Alors on peut avoir la joie ensuite de l'apporter aux autres. Parce qu'il est tout puissant. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, disait l'apôtre Pierre. C'est quand ils ont vu et qu'ils ont été témoins, qu'ils sont devenus des témoins, mais extrêmement efficaces, au début très tremblants. Mettons-nous à la place des apôtres. Ils ont fait plein d'erreurs, les disciples aussi. Même Pierre a renié Jésus. Mais quelle transformation une fois qu'il a reçu la grâce de Jésus et le Saint-Esprit scellé par le Saint-Esprit. Et en acte 17, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. » Voyez, ces témoins de Jésus ont été tellement puissants dans leur témoignage qu'ils étaient connus comme des gens qui bouleversaient le monde. Le mot, vous le savez peut-être, mais le mot grec, « martyres », pour témoin a donné le mot « martyr ». Et quelqu'un a dit, vous le connaissez certainement, vous avez entendu parler ça au second siècle, Tertullien a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Beaucoup de gens sont devenus croyants en observant des croyants qui ont affronté la mort avec paix, courage et même joie. J'ai lu dans l'histoire de l'Église un vieillard, Polycarpe, qui était un père de l'Église, qui a été pris pour être brûlé. Les soldats sont venus presque à contre-cœur, prendre ce vieillard, je ne me souviens plus de son âge, mais je pense qu'il y avait aux alentours de 80 ans. Et cet homme-là, qui était un des piliers de l'Église, a été saisi pour être brûlé. Et il y a un soldat romain qui a lancé sa lance et on dit que son sang a coulé et qui a éteint une partie de son brasier. Mais ceci dit, après cela, il y a eu une accalmie dans l'église persécutée parce que les bourreaux ont vu, le peuple a vu avec quel acharnement on avait tué ce vieillard. Ça a bouleversé même les autorités romaines. Finalement, il y a eu un apaisement. Mais ce vieillard est arrivé avec la paix. On n'avait pas, bon, il était âgé, il voulait pas s'enfuir de toute façon, mais il a regardé ses soldats romains. Les gens sont venus prier avec lui. Il a même prié pour ses bourreaux. Attendez, ils en ont tremblé. Je vous ai raconté une fois l'histoire d'un homme, une histoire véritable que j'ai lue. Ça se passe aux États-Unis, qui avait été un criminel. On l'avait saisi. Et il devait passer à la chaise électrique. Et alors, il avait prié. Il y avait un aumônier qui était passé. On dit, alors, tu crois ? Non, non, je ne crois pas, mon Dieu. Laisse-moi tranquille avec ça. Et puis, l'aumônier persévérait, mais l'autre, il ne voulait rien savoir. Et c'était un cas difficile. Et puis, finalement, il a dit à Dieu, écoute, donne-moi un signe. À 5 heures du matin, pétante, si tu me réveilles demain matin, je croirais que tu existes. Il a osé faire ça. Et à 5 heures du matin, le geôlier a fait du bruit en regardant à travers la petite lucarne. Et il s'est réveillé, il a dit, tiens, 5 heures pile. Il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, tu existes, fais quelque chose pour moi. Et il s'est converti dans sa cellule, il a reçu la paix de Dieu. Et c'est dit et c'est écrit que quand ces bourreaux, établis par la justice quand même, pas les bourreaux de l'église persécutée, l'ont amené sur la chaise électrique, il tremblait plus que lui. Parce que lui a témoigné, et c'était juste avant quelques jours de sa mise à mort, il a témoigné d'une telle paix avec Dieu qu'il avait reçu ce pardon de Dieu alors qu'il avait été un assassin. Il dit, mais moi je mérite la mort, j'ai tué quelqu'un, on m'exécute, c'est la justice. Mais j'ai trouvé la paix de Dieu. Et ces gens-là autour de lui tremblaient de voir une telle paix, une telle sérénité face à la mort, à l'éternité. Alors ces martyrs sont morts. Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Étienne, vous savez que Jean-Baptiste a eu la tête coupée. Étienne, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, dit Paul, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Et l'apôtre Paul, en acte 26, il est écrit, mais toi, Jésus a dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et à propos de Jésus-Christ, il est écrit en Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On a besoin de témoins, mais le témoin par excellence, c'est Jésus qui nous a laissé sur la terre des traces d'un homme juste, fidèle à Dieu le Père en toutes choses. Et nous mettons nos pas dans ses traces et nous trébuchons, parce que lui a laissé des traces parfaites. Mais Dieu nous tient la main, il nous relève et nous fait reprendre le chemin. Nous avons besoin d'être des témoins véritables et des témoins efficaces. Et comme dit la Bible, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Je vais vous raconter une anecdote. Notre église, à Beauport, à Québec, que quelques-uns ont visité, a été construite, belle église, et il y avait un pyromane qui est venu dans la ville de Beauport, où nous étions, qui était lié à la ville de Québec, en fait, et maintenant il ne forme qu'une seule ville d'ailleurs, avec d'autres banlieue. Ceci dit, il y avait un pyromane qui a commencé à mettre le feu à la mairie. Ensuite, il a mis le feu à ce qu'on appelait le manoir Montmorency, qui est un magnifique manoir qui date de plusieurs siècles, a été reconstruit. Mais il a eu la mauvaise idée après, entre autres, deux autres mauvaises idées, de mettre le feu dans notre église qu'on venait juste de finir. Un cocktail Molotov dans le sous-sol qui a mis le feu partout dans l'église. Alors, il y a une dame vers 3h, 4h du matin, qui m'appelle, dit, Monsieur Viguier, savez-vous quoi ? L'église est en feu. Je dis, écoutez, Madame Richard, à cette heure-ci de la nuit, là, ce genre de blague, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle me disait. J'étais à moitié endormi. Elle dit, l'église est en feu. Je dis, madame, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Elle me dit, j'ai écouté à la radio, l'église est en feu. L'église baptiste évangélique de Beauport est en feu. Allez-y, Monsieur Viguier. Oh, je me suis habillé sur mon pyjama, je suis parti. Mais savez-vous quoi ? J'avais jamais vu autant de monde à l'église. des policiers, des pompiers, des journalistes. C'est arrivé avant moi, des gyrophares partout. Quand il y a le feu à l'église, ça attire les gens. C'est ça que je veux vous dire. Comprenez, quand il y a le feu à l'église, on est l'illustration. Est-ce que nous avons vraiment le feu? Est-ce que nous sommes cette lumière qui brillons, qui donnons envie aux autres? Est-ce que nous attirons les gens? Nous avons tellement besoin de cet amour puissamment dans nos vies. Alors, pour terminer, il est écrit que vous serez mes témoins, on l'a déjà vu, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Alors, j'avais noté quelque part, voilà, je vais le retrouver, je pense. Je vous l'avais dit que je le dirais. En Actes, chapitre 1 à 7, mais c'est le témoignage à Jérusalem. En Actes 8, 1 à 9, 31, à cause de la persécution, c'est la diaspora, ils sont chassés de Jérusalem, c'est le témoignage en Judée, en Samarie. Et à partir de Actes chapitre 9, qui est le récit de la conversion de Paul, c'est le témoignage qui commence jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est la vision que nous avons? Il faut réfléchir à ces choses-là. Quelle est la vision que nous avons? Dieu nous a placé à un endroit, dans notre foyer. Est-ce que nous avons vraiment le fardeau pour le salut de ceux qui sont peut-être tout proches de nous? Dans une famille avec des parents, des oncles, des tantes, est-ce que nous avons un fardeau pour eux? Ça, c'est notre Jérusalem. Est-ce que nous avons un fardeau pour ceux avec qui nous travaillons? Est-ce que nous avons un fardeau avec ce que nous côtoyons? Je vous donne cette anecdote, ça me vient à l'esprit, mais pour la gloire de Dieu. Je me souviens, à Paris, quand je faisais mes études, il y avait un jeune homme qui aimait beaucoup aller à la radio, voir les enregistrements, les choses comme ça. Et un jour, il m'a dit, viens Michel, il y a Joe Dassin qui passe, à quelle radio? On va aller l'écouter. Moi, j'étais toujours curieux de ces choses-là, j'y vais, et j'avais pris les traités. Puis j'ai bloqué à la fin, j'étais proche de Joe Dassin, tout le monde le saluait. Je n'ai pas donné un traité. Et quelques temps plus tard, vous le savez, Joe Dassin est entré à l'hôpital, puis il est mort. Heureusement que le salut des âmes ne dépend pas toujours de ce que nous faisons. Mais ce dit-là, il y avait une occasion. En tout cas, Dieu a travaillé dans mon cœur. Vous savez, Dieu travaille dans nos cœurs, là où nous sommes, là où nous vivons. Chacun a des circonstances. On doit insister en toute occasion, favorable ou non. Parfois, il faut se taire parce que les gens ne sont pas prêts, mais on ne sait jamais. Jette ton pain sur la surface des eaux, dit l'Ecclésiaste, qu'un jour tu le retrouveras. On ne sait jamais le temps de Dieu. Dieu nous demande de semer, c'est lui ensuite qui fait germer, pousser, croître. Mais parfois, nous faillissons, comme moi j'ai failli ce jour-là. Je pense que, quelque part, j'avais une occasion. Bon, vous avez compris l'illustration. Dieu place des occasions dans nos vies. Alors, on est à Jérusalem, dans notre Jérusalem, notre Samarie. Et puis, est-ce qu'on peut oser penser qu'on peut penser à une ville, pourquoi pas, à une région, à un pays et au monde, et puis aller, même si on est appelé par Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, allons-y pour répondre à cet appel, parce que c'est la vision de Dieu. Dieu veut atteindre toutes les nations. Dieu veut atteindre le monde entier pour Jésus-Christ. Et la Bible dit, faute de vision, mon peuple périt. Quand l'Église n'a plus la vision des âmes qui se perdent, elle est en danger. Oswald Smith, dans son livre, La Passion des âmes, disait, plus le phare est intense à sa source, plus il porte au loin. Plus l'Église a un fardeau des âmes à sa Jérusalem, plus ils vont aller au loin. Peut-être même sous la persécution. Parfois, Dieu nous pousse à aller parce qu'on n'est pas prêt à aller. Et il y a au travers des siècles, et je terminais avec ça, il y a au travers des siècles, des hommes et des femmes de Dieu qui se sont levés pour accomplir la mission de Dieu, qui ont été revêtus de l'onction de Dieu et du Saint-Esprit avec puissance pour gagner les âmes. Dans des endroits les plus reculés parfois, où ils ont payé de leur prix. Et là, on pourrait citer mes missionnaires, et l'histoire de l'Église en est remplie, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour la vérité ou pour la mission à accomplir. Alors, vous avez compris de quelle trempe sommes-nous, nous, ici, dans notre Église, et chacun de nous devant l'Éternel. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur est paru dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» À un moment donné, on fait une expérience, on est là, « Oh, On voudrait rester dans l'extase. Mais on a une action, une mission à accomplir. Hein? Et puis, les promesses, ils avaient la promesse de la venue du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a failli? Non. On a mult promesses. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour accomplir la mission que Dieu nous a laissée, parce qu'il nous a laissés sur terre pour être ses témoins. Prions. Notre Père céleste, nous nous humilions devant toi ce matin. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous sommes impuissants, mais tu es tout puissant. Nous sommes des héros. Mais toi, tu peux faire de nous des héros de la foi. Nous ne sommes rien, mais de ce rien, tu peux l'utiliser à ta gloire, afin que toute la gloire te revienne. Ô notre Père, glorifie ton nom au siècle des siècles. Amen.